Bonjour à tous. Je suis heureux d'être de retour à Konya après quelques semaines passées ailleurs. Et je suis heureux d'avoir l'occasion de continuer à prêcher le livre des Philippiens avec vous tous. J'adore la parole de Dieu, j'aime la parole de Dieu et j'aime cette église. Alors, je suis très heureux aujourd'hui d'être avec vous. Mais bien que j'aime le Seigneur, son église et sa Bible, il y a un mot que j'ai récemment commencé à ne plus aimer utiliser ou franchement entendre. Et c'est le mot biblique. Et cela peut sembler un peu étrange, mais laissez-moi vous expliquer. Dans les milieux que je côtoie quelquefois, certains choisissent d'utiliser le mot biblique comme une arme contre ceux qui ne sont pas d'accord avec leur propre conviction chrétienne. J'ai entendu dans les messages de prédicateurs et j'ai même participé à des réunions où des personnes se posaient qu'une certaine décision était déjà acquise parce que leur suggestion était la plus biblique. Nous faisons la scène de cette façon parce que c'est biblique. Ou nous baptisons de cette manière parce que c'est biblique. Ou nous autorisons ceci ou nous n'autorisons pas cela parce que c'est ou n'est pas biblique. Comme si notre compréhension personnelle des commandements contenus dans l'Écriture était la seule option possible et que tout le reste était non biblique. Parce qu'ils ne sont pas arrivés aux mêmes conclusions que nous sur ce qui est écrit dans l'Écriture. Bien sûr, nous avons des convictions fermes sur ce que Dieu a dit parce que Dieu l'a dit. Si vous me demandez quelles sont mes propres opinions bibliques, je pourrais discuter avec vous jusqu'à ce que le soleil se couche. En anglais, bien sûr. Pas en français maintenant. Mais je ne veux pas dire que la passion pour Dieu et sa parole est mauvaise. Chaque mot de la parole de Dieu mérite notre attention. Cela vaut la peine de passer notre vie entière à essayer de comprendre et d'obéir à sa parole. Mais notre sincérité et nos efforts n'annulent pas la sincérité et les efforts de nos frères et sœurs qui ne sont pas d'accord avec nous. En fait, la sincérité compte très peu en matière de vérité, car je peux me tromper sincèrement sur quelque chose. Mais avec ce mot biblique, quelquefois, nous, chrétiens, avons appris à l'utiliser comme un moyen de ridiculiser ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. Avec cette arme, certaines églises se sont même divisées sur des questions tertiaires qui ne devraient pas diviser les frères et sœurs. Dieu se soucie de l'unité entre les chrétiens et je dirais qu'il se soucie encore plus de l'unité au niveau d'une église particulière. Nous allons voir ce que le Seigneur a à dire sur l'unité aujourd'hui et plus particulièrement sur l'unité au niveau d'une seule église. Dans Philippiens 2, 1 à 4. Il ne nous a fallu que 6 mois, mais nous sommes arrivés au deuxième chapitre de Philippiens. Lisons ces versets ensemble. Philippiens 2, versets 1 à 4. S'il y a donc quelque consolation en Christ, s'il y a quelque encouragement dans l'amour, s'il y a quelque communion de l'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, mettez le comble à ma joie afin d'avoir une même pensée et un même amour, une même âme, une seule pensée. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Prions. Merci notre Dieu pour ta parole. Merci encore et encore et encore pour cette opportunité d'entendre et d'obéir à ta parole. Malgré mon français, parle forcément aujourd'hui, parle avec puissance envers ta parole, soit avec nous, soit avec ton Église, soit avec ton peuple. Amen. Cette section fait évidemment suite aux premières chapitre et ne doit pas être étudié isolément. Même si nous avons aujourd'hui cette vision en chapitre dans nos Bibles, il ne s'agit pas du début d'une nouvelle section, mais de la poursuite de la même pensée que Paul a écrite à l'église de Philippe. Même à partir d'observations grammaticales élémentaires, nous voyons que Paul s'adresse au même groupe de personnes que la phrase précédente. Et il est donc logique que le thème de la conversation n'ait pas changé non plus. Les destinataires de cette lettre, le public original ou les lecteurs prévus, étaient qui? Ces participations. C'était qui? C'était les Philippiens, oui. Pas les Romains ou les Juifs religieux ou la diaspora des chrétiens disséminés dans tout le Moyen-Orient. C'était les Philippiens. Et c'est important parce que pour la première fois dans cette lettre, il y a un commandement très clair de Paul. Et nous ne voulons pas faire des suppositions qui pourraient interférer avec l'obéissance à la parole de Dieu. Et bien sûr, la parole de Dieu est pour nous aujourd'hui et est tout à fait pertinente et applicable à nous aujourd'hui. Mais il est important de ne pas s'insérer soi-même à sa propre situation dans le texte, mais d'acquérir une compréhension qui vienne du texte. Nous savons que, comme au premier chapitre, les saints de Philippe, les anciens et les diacres, sont les premiers destinataires. Paul s'adresse ici à l'église de Philippe sur deux points. Un, leur relation avec lui, avec Paul, en versets 1 à 2, et leur relation les uns avec les autres, versets 3 à 4. Observez, il dit, s'il y a donc quelque consolation en Christ, s'il y a quelque encouragement dans l'amour, s'il y a quelque communion de l'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, mettez le comble à ma joie afin d'avoir une même pensée, un même amour, une même âme, une seule pensée. Et nous ne sommes pas des animaux dépourvus de raison et que nous pouvons nous souvenir de ce que nous venons de lire il y a 5 secondes, nous réalisons qu'il ne parle pas un terme hypothétique ici, mais qu'il y a réellement de l'amour, de la communion et de la compassion. En fait, bien que dans notre traduction française, les mots ne soient pas exactement les mêmes, en grec, les termes que Paul utilise dans ces versets font référence à des déclarations antérieures qu'il a faites. Au chapitre 1, verset 5, Paul parle du partenariat dans l'évangile qu'il a avec l'église de Philippe. Au verset 7, il leur dit qu'il les aime et les chérit. Et au verset 8, il parle de sa compassion à leur égard. Entre Paul et l'église de Philippe, il y a de l'amour, de la communion et de la compassion. Et c'est pourquoi il leur demande maintenant d'être unis pour lui. Puis au verset 3, il réoriente l'attention vers les relations entre les membres de l'Église. Il dit « Ne faites rien par rivalité, par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Puisque les Philippiens chérissent Paul, il insiste pour qu'ils se chérissent aussi les uns les autres. Et n'oubliez pas qu'il s'adresse toujours aux mêmes personnes que nous avons vues au chapitre 1, qui menaçaient de causer la division en prêchant par envie et par rivalité. Et bien qu'ils ne prêchaient pas un faux évangile, ils étaient sur le point de causer des problèmes par leur égoïsme. Ces hommes avaient leur propre opinion et faisaient ce qu'ils pensaient être juste au détriment des autres chrétiens. Malheureusement, nous voyons ce scénario se produire souvent dans l'Écriture entre les chrétiens. L'un des premiers problèmes de l'Église a été le conflit entre ceux qui croyaient qu'il fallait être circoncis selon la loi de Moïse pour suivre Jésus, et ceux qui ne croyaient pas que la nouvelle alliance l'exigeait, en acte 15. Dans l'Église de Corinthe, certains se séparent des autres en raison du leader chrétien qui suivait. En Corinthiens 3, 4 à 5. Et je vais lire. Quand l'un dit, c'est Paul, c'est l'Esprit Saint qui parle, mais Paul qui écrit. Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Il n'était pas inhabituel dans l'Église primitive, et cela a continué d'être notre habitude de pêcheurs pendant 2000 ans, de trouver des raisons de se disputer et de se diviser sur des préférences personnelles et des plaintes mineures comme l'Église de Corinthe, mais aussi de se diviser sur des désaccords doctrinaux sérieux comme la question concernant les alliances dans Acte 15. Quelle que soit la cause de la désunion qui menace l'Église de Philippe, Paul veut l'avertir à l'avance qu'elle doit être non seulement partenaire avec lui pour l'amour de l'Évangile, mais aussi partenaire les uns avec les autres et s'efforcer d'affronter le monde comme un seul corps. J'ai souvent entendu ce texte utilisé comme preuve pour encourager l'harmonie entre tout le monde partout, comme si nous pouvions sortir cette section de son contexte et l'appliquer à toutes les situations. Pourtant, l'unité et le consensus de pensée dont il est question dans ce passage n'est pas l'unité entre l'Église et le monde, ni même entre l'Église de Philippe et une autre Église. N'oubliez pas que ce texte est écrit par le même Paul qui a anathématisé ou exclu les hérétiques qui pervertissaient l'Évangile en Galatie, et inspiré par le même Esprit Saint qui a inspiré le reste de la Bible, où l'on ne manque pas de distinguer le peuple de Dieu du monde pécheur, ni même de différencier les croyants qui ont des convictions différentes au sujet de Dieu. Paul lui-même a eu des désaccords avec son frère Barnabé, et ils ont décidé de prendre deux directions différentes, en Acte 15 aussi. Les mêmes pensées, le même amour et le même esprit que Paul espère voir se manifester sont ceux des membres de cette Église en particulier. Aussi dur que cela puisse paraître dans notre société pluraliste de suggérer que la Bible, et en particulier ce passage, n'encourage pas une unité générale entre tous ceux qui suivent Dieu, c'est la vérité. Et en fait, bien que nous ayons l'impression de faire partie d'un club exclusif, quand nous commençons à tracer des lignes entre les gens, nous sommes tous les bénéficiaires des lignes que Dieu a déjà établies. Dieu lui-même est assez exclusif. Par exemple, on n'est pas universaliste, j'espère, et on sait donc que la Bible enseigne que bien que Dieu a créé toute l'humanité à son image, toutes les personnes ne seront pas sauvées. Tout homme est pécheur, mais tout le monde ne sera pas attiré par le Seigneur. La bonne nouvelle, néanmoins, c'est que certains seront sauvés parce que Dieu leur a offert un moyen d'échapper à la mort. En nous repentant, en nous détournant du péché et en croyant que Jésus est Seigneur, nous pouvons être appelés enfants de Dieu et être ainsi sauvés de l'éternité, séparés de lui. Plusieurs chrétiens s'arrêtent là, supposant qu'il n'est plus nécessaire de faire des distinctions. Mais ce n'est pas là que la Bible cesse de faire des distinctions. La Bible est la révélation que Dieu fait de lui-même. Elle nous dit tout ce que Dieu veut que nous sachions sur lui-même, sur ses actions et sur ses attentes à l'égard de ceux qui le suivent. Si je me détournais sincèrement de mon péché, que je plaçais ma foi en Dieu, que je me disais chrétien, et puis que je décidais ensuite de faire de Dieu ce que je voulais qu'il soit au lieu de le prendre au mot, je tracerai ma propre ligne de démarcation entre moi et les disciples légitimes de Dieu. Si je fais comme certains et que je prétende qu'il y a une inspiration supplémentaire donnée à certains en dehors du canon établi de l'Écriture, qui est au même niveau ou même remplace la révélation de Dieu dans la Bible que nous avons déjà, je serai à juste titre exclu des membres de l'Église. J'ai remarqué que dans toutes les églises protestantes françaises que j'ai fréquentées, les mormons et les témoins de Jéhovah sont condamnés à juste titre pour cette pratique erronée. Bien qu'ils prétendent adorer le même Dieu, ils rejettent clairement les principes chrétiens de base, allant même jusqu'à nier les dogmes chrétiens fondamentaux comme la Trinité au profit de leur propre création. Sommes-nous trop sévères lorsque nous les excluons? Ou bien Se sont-ils exclus eux-mêmes en rejetant les enseignements clairs de Dieu dans la Bible? Vous voyez, même à notre époque où l'on attend de nous que nous validions l'opinion et les sentiments de chacun, aussi divergents soient-ils, dans l'Église de Dieu, il y a encore des limites à ne pas dépasser. En commençant par le plus général, les deux credos chrétiens fondamentaux, le symbole des apôtres et le symbole de Nicée, ces deux brèves déclarations résument les fondements de la foi chrétienne depuis presque aussi longtemps qu'il existe une foi chrétienne. Je ne vais pas les lire maintenant, mais sachez que si vous vous dites chrétien, vous devez être d'accord avec le contenu de ces deux credos. Ensuite, puisque nous nous appelons protestants ici à APEC, il est important de savoir que ce terme est défini par plusieurs confessions écrites au XVIe et XVIIe siècle. La confession d'Augsbourg, écrite par Martin Luther et ses collègues, est peut-être la plus générale des confessions de la réforme protestante. Viennent ensuite la confession de La Rochelle, la confession de Belgique, les canons de Dort, la confession de Westminster, la confession baptiste de Londres, etc., etc. Tous ces documents abordent systématiquement les Écritures et définissent des croyances particulières qui séparent les protestants de l'Église catholique romaine. Récemment, Emmanuel a prêché sur les particularités de notre propre réseau d'Église, le réseau FEF, et a pris une semaine pour enseigner chaque section de la déclaration de foi du réseau. C'est un document qui sépare notre association d'Église des autres associations. Et ce document distingue les évangéliques du protestantisme en général. Plus distinctif encore, cette Église, EPEC, a sa propre déclaration de foi qui unit tous les membres. En fait, si vous êtes membre, vous l'avez lu et signé. Ce n'est pas une mauvaise chose ou un manque de charité que de se distinguer parmi une mer de mauvaise théologie et d'opinions erronées sur la Bible. De plus, il n'est pas mauvais de se distinguer de ceux avec lesquels vous êtes en désaccord et qui n'ont pas nécessairement une mauvaise théologie, mais simplement une théologie différente. Il y a beaucoup d'opinions et beaucoup de livres écrits sur l'endroit exact où la ligne devrait être tracée, mais dans le cas de l'église de Philippe, et je dirais que c'est l'exemple donné à chaque église locale, la ligne de démarcation la plus importante devrait être la façon dont nous proclamons et le contenu de l'évangile. Il n'y a pas de place pour la déviation quand il s'agit de la nouvelle la plus importante du monde. Et comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent de cette lettre, la simple mission de Paul est de s'assurer que l'évangile est prêché. Qu'il soit libre ou en prison, qu'il soit même mort ou vivant, il supplie les Philippiens de diffuser la bonne nouvelle. Mais avant que cette communion et cette unité dans la mission puissent se produire, il doit y avoir quelque chose qui la précède. C'est l'humilité. Paul conditionne l'unité d'esprit qu'il encourage dans les versets 1 à 2 au désintéressement et à la charité des versets 3 et 4. Il y a bien sûr deux menaces pour l'Église. C'est la persécution et l'intimidation extérieure que Paul et les Philippiens connaissent très bien, mais aussi c'est la menace de la division antérieure et de la médisance. Il y a une crainte que cette assemblée, les Philippiens, soit divisée et que son témoignage soit ainsi rendu inefficace dans le monde extérieur. Comment pouvons-nous prêcher un évangile de réconciliation alors que nous sommes si divisés? Nous ne devons pas être unis avec le monde, mais nous devons faire face au monde côte à côte avec nos frères et sœurs. Versets 3 et 4, Paul insiste sur le fait que la clé de cette humilité est de considérer les membres de l'Église comme plus importants que nous-mêmes. Il ne préconise pas un dépouillement total, comme si nous étions censés nous vider de tout désir ou opinion personnelle. Mais l'Église doit reconnaître que chaque membre individuel n'existe pas pour son propre plaisir et sa propre gloire, mais pour l'édification des autres membres et la gloire de Dieu seul. Et Paul a déjà précisé dans 1 Corinthiens 12, et c'est un peu long, on va lire ensemble 1 Corinthiens 12, commençons à verset 12. 1 Corinthiens 12. En effet, comme le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour former un seul corps, avons tous été baptisés, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, il n'en est pas moins du corps pour autant. Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, elle n'en est pas moins du corps pour autant. Si tout le corps était œil, où serait lui? S'il était tout lui, où serait le drap? En fait, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Donc, en tant que chrétiens, nous avons renoncé à l'option d'être entièrement égoïstes. Notre vie ne nous appartient pas. Bien sûr, nous vivons individuellement pour le Seigneur, pour le servir et lui obéir, mais cela ne peut se faire en dehors d'un partenariat avec d'autres croyants. Je ne sais pas qui a eu l'idée de vivre un mode de vie monastique loin de civilisation, quelque part au sommet d'une montagne, mais il n'avait pas la bonne idée. Ainsi, l'humilité précède l'unité. Et l'unité devrait être particulièrement importante pour les chrétiens qui sont dans la même église locale. Mais qu'est-ce qui précède l'humilité? Parfois, nous poursuivons en sincèrement l'humilité comme une fin en elle-même, plutôt que de poursuivre Christ qui nous rend humble. Plus que l'unité ou même l'humilité, notre objectif primordial devrait être de devenir plus saint. Si nous poursuivons Christ, l'humilité viendra. Et si nous sommes humbles, nous aimerons bien nos frères et sœurs. Et le Seigneur ne veut pas que nous soyons unis simplement pour l'amour de l'unité, mais pour que l'Évangile soit propagé dans le monde. Le Nouveau Testament contient une myriade de passages sur l'amour des chrétiens les uns pour les autres, et à chaque fois, l'objectif n'est pas simplement de créer des sentiments chaleureux, mais de renforcer l'Église. Un prédicateur écossais, Sinclair Ferguson, a dit: l'unité de notre communauté est intimement liée à la puissance de notre témoignage dans le monde qui nous regarde. Et bien plus, Jésus a dit en Jean 13, « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » En pratique, comme nous nous aimons les uns les autres, lorsque nous voyons un besoin dans l'assemblée, nous devons y répondre. Nous ne sommes pas tous équipés de tous les dons spirituels, mais nous pouvons tous encourager un frère ou une sœur qui souffre. Nous pouvons tous prendre le temps d'écouter et de réconforter nos partenaires dans le ministère. S'il y a quelqu'un qui a des besoins physiques, nous pouvons certainement nous unir pour l'aider à les satisfaire. Ce n'est pas seulement le travail de quelques-uns de prendre soin du reste. Nous sommes tous dans cette mission ensemble, comme Église. C'est ainsi que nous sommes unis, non pas simplement en portant les mêmes couleurs d'équipe et en utilisant le même langage, mais en nous élevant les uns les autres et en vivant pour les autres plutôt que pour nous-mêmes. Paul dit aussi à l'Église de Rome, Romains 12, « Pour amour fraternel et de l'affection les uns pour les autres, par honneur usé de prévenance réciproque. » Ainsi, en allant de l'avant, considérons que l'objectif de nos vies chrétiennes est d'honorer Christ tout en honorant ceux qui portent son nom. Cherchez l'unité avec les frères, oui, mais cherchez d'abord l'humilité. Poursuivre l'humilité, bien sûr, mais surtout poursuivre Christ lui-même. Et rappelez-vous que l'unité des chrétiens ne consiste pas simplement à supprimer toutes les parties délicates de la théologie jusqu'à s'il n'y ait plus de désaccords. C'est un christianisme faible est inefficace, qui n'apporte rien de bon au monde ou aux autres chrétiens. L'unité fondée sur le désir de ne blesser personne sera dissoute au moindre signe d'examen. Mais une communion fondée sur les vérités inébranlables de l'Écriture et sur la personne même de Jésus ne se brisera jamais. La véritable unité s'enracine dans l'amour du Christ Jésus et dans le désir de le connaître et de lui obéir aussi fidèlement que possible du côté-ci du ciel. Priez pour l'unité, cherchez l'humilité, mais avant tout, accrochez-vous à Jésus. Voilà. Comme d'habitude, enfin, une bénédiction finale. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce, et que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Amen.
Amen. Amen.